Alors, je ne suis pas chercheur, mais je suis. Mon rôle est de diffuser les travaux de recherche vers des publics les plus larges possibles. La revue Hommes et Migrations est née il y a plus de 50 ans, justement dans ce souci de communiquer les travaux de recherche vers les personnes qui sont engagées sur le terrain dans l'accueil, l'accompagnement, l'aide aux migrants. C'est une revue qui est donc née dans le milieu associatif, revue de documentation, qui s'est forgée au fil des décennies une compétence de publication scientifique. Et l'année dernière, nous avons pu commémorer les 50 ans de cette revue en mettant en ligne des archives qui montrent comment la revue a analysé l'actualité sur l'immigration depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est une revue qui, depuis 2007, est publiée par le Musée national de l'histoire de l'immigration. Ce musée qui a ouvert ses portes pour raconter deux siècles d'immigration en France, qui a lui aussi une très belle médiathèque que je vous incite à visiter si vous avez le temps, qui constitue donc un fonds extrêmement pluriel, puisque nous conservons bien sûr les travaux en sciences humaines et sociales, mais aussi un fonds littéraire très conséquent qui a permis depuis 7 ans... de développer un prix littéraire de la Porte Dorée. J'en reparlerai très rapidement tout à l'heure. Un fonds de films, de documentaires, de courts-métrages tout à fait conséquents. Alors, cette revue, en 1999, avait déjà fait paraître un état des savoirs qui, à l'époque, s'intitulait « Immigration et intégration ». Sous la direction de Philippe Devitte, qui était le rédacteur en chef de la revue et qui a beaucoup contribué à faire en sorte que cette revue gagne ses galons, on va dire, en tant que revue de diffusion scientifique. Mais nous avons souhaité donc renouveler l'exercice avec les éditions de La Découverte, qui imposent des contraintes de format et de contenu qui sont finalement assez salutaires pour une présentation de l'ensemble des travaux très nombreux, très volumineux, qui s'accroissent d'année en année sur les questions d'immigration internationale, mais nous avons voulu prendre en compte avec cette réédition les nouvelles orientations de la recherche en adaptant les enjeux aux sociétés contemporaines, aux enjeux auxquels est confrontée la société française d'aujourd'hui. Donc, Migration et mutation de la société française rassemble une trentaine d'articles sur un format relativement court, puisque nous sommes sur... c'est assez technique, mais un volume de 22 000 signes, c'est-à-dire pour nous un petit article de la revue Hommes et Migrations, avec une contrainte pour chaque auteur de nous livrer une bibliographie accessible à un public qui n'est pas forcément uniquement le public universitaire. Et donc, nous avons fait paraître cet ouvrage en 2014, il y a déjà 2 ans, pour essayer de voir comment se caractérise aujourd'hui l'immigration internationale. Et donc, la volonté de cet ouvrage, c'est bien sûr d'être le vade-mecum de tout étudiant qui démarre des études dans le domaine des migrations internationales, pour l'aider en fait à commencer à cadrer le champ de ses recherches, mais aussi de pouvoir alimenter la réflexion et l'observation des professionnels, acteurs de terrain, associations, toute personne intéressée par ces questions. Donc l'approche privilégiée est une approche pluridisciplinaire, comme celle de la revue, pour rendre compte des réalités complexes, celles des migrants, celles des générations de descendants de migrants, les relations également entre les populations migrantes et la société française. On a voulu mettre l'accent principalement sur les nouvelles problématiques de la recherche dans le domaine des migrations, les dynamiques migratoires selon les origines géographiques et les situations socio-économiques des migrants, les nouvelles formes de représentation des migrants et des migrations dans les discours publics, dans les médias, dans les travaux pédagogiques, dans l'enseignement de l'éducation nationale et dans les politiques publiques. Donc, dans un premier temps, on s'est rendu compte qu'il fallait sortir d'une approche essentiellement centrée sur l'intégration, ce qui était plutôt le cas du premier volume de cet état des savoirs, parce qu'on a souhaité ne pas traiter la question des migrations du seul point de vue de la société d'accueil, c'est-à-dire la société française, et en adoptant une approche beaucoup plus globale et dynamique. Donc la question était de savoir comment les migrations contribuent à la fabrication de nos sociétés contemporaines. On a donc mis l'accent sur une approche structurelle qui nous permet de relativiser cette notion de crise des migrants, crise des migrations actuelles. En fait, depuis les années 70, on assiste à un triplement du volume des migrations internationales dans le monde pour approcher les 250 millions de personnes en circulation de nos jours. Ce sont des migrations qui sont régionalisées, c'est-à-dire qu'elles construisent des espaces de circulation régionale, des grands ensembles que sont la Méditerranée, les États-Unis, le Mexique, d'autres endroits dans le monde, et qui se constituent en fonction de lignes de fracture du monde, des lignes de fracture liées à des conflits, à des tensions, à des changements environnementaux, mais aussi des lignes de fracture qui dessinent des régions où les inégalités économiques sont plus fortes que dans d'autres régions et qui incitent les personnes à partir. Pourtant, ces migrations sont un facteur de développement économique. On a essayé de montrer la manière dont elles contribuent au développement des pays d'origine et des pays d'accueil. Ce qui nous a intéressé, c'est de publier un ouvrage qui permet de, de mettre l'accent sur ces dynamiques migratoires, ces problématiques transnationales d'immigration. Alors même que on s'aperçoit que dans l'opinion française, dans les débats publics, des problématiques sont davantage centrées sur la sécurité, la protection des acquis sociaux, du marché du travail, de la préservation des modèles culturels et identitaires. Donc on s'est demandé, avec la publication de cet ouvrage, quels étaient les freins et les filtres qui opèrent dans un domaine où beaucoup d'idées reçues et de stéréotypes entretiennent une vision déformée extrêmement négative des migrations. Quel est l'effet sur la société française de ce biais dans la perception qu'on a des migrations. Donc on a commencé cet ouvrage avec un cadrage international qui nous a semblé important. On a voulu montrer la dimension internationale des mobilités humaines pour montrer leur imbrication avec les sociétés de départ et d'accueil. Il s'agissait de restituer les migrations vers la France dans un panorama international, puis européen, en soulignant les profils des migrations, des migrants qui choisissent de venir en France, les stratégies qu'ils adoptent, les effets de leur mobilité sur les pays d'origine, sous forme de transferts financiers, sous forme de dynamique d'aide au développement des pays d'origine. Il existe un paradoxe entre la concurrence des économies mondialisées, dont les migrations constituent un facteur essentiel, les logiques démographiques des sociétés européennes vieillissantes, et ce refus persistant des sociétés d'accueil d'envisager les apports économiques et démographiques des migrations sur leur territoire. On pourrait rajouter à cette prise en compte du cadre international un contexte qui est relativement nouveau, celui de la remise en cause des libertés de circulation et des droits de migrer. Avec la mondialisation, très curieusement, enfin, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un développement de la liberté de circulation. Or, on s'aperçoit qu'il y a au contraire une multiplication des frontières, une militarisation des frontières, un contrôle répressif de plus en plus fort pour empêcher les personnes de migrer vers des sociétés où ils pensent pouvoir trouver un destin. Bien sûr, la figure du réfugié vous vient en tête. Mais il y a des nouvelles figures d'émigration que je vais aborder très vite et qui montrent que ce contexte international pèse énormément actuellement sur les modalités d'émigration. Nous avons essayé aussi dans cet ouvrage d'aborder la question de la gouvernance européenne internationale d'émigration, montrer qu'il existe un système d'acteurs avec des ONG internationales, des États, des négociations à des hauts niveaux. Les migrations peuvent devenir une ressource de diplomatie internationale. Je pense qu'actuellement, l'exemple des négociations entre la Turquie et l'Europe et l'Union européenne illustre tout à fait ce propos. Mais il y a aussi des politiques diasporiques qui sont portées par des pays comme, par exemple, l'Inde, la Chine ou le Maroc, qui ont compris qu'en investissant sur leurs ressortissants installés durablement à l'étranger, ils peuvent compter sur des facteurs de circulation de ressources diverses, financières, en termes de compétences, de formation, des allers-retours qui profitent au développement non seulement de l'économie locale, mais aussi l'évolution des cadres sociaux et des modèles culturels. Dans un deuxième temps, l'ouvrage a voulu faire une typologie des migrations et a mis en avant la situation particulière de la France en Europe comme vieux pays d'immigration. On a un très bel article qui rappelle que nous sommes le seul pays en Europe qui, depuis le milieu du 19e siècle, accueille des migrants ayant des profils très variés. Il traite la question des typologies des migrations, notamment en distinguant les migrations économiques, les migrations de savoir qui se développent, non seulement les mobilités d'étudiants, mais aussi des mobilités de gens qualifiés qui souhaitent une intégration professionnelle au niveau de leur diplôme, des migrations familiales qui sont toujours très importantes dans la France. La première migration en France, c'est la migration des conjoints de Français qui est suivie par la migration du regroupement familial et bien sûr les migrations des réfugiés politiques. On a essayé aussi d'analyser des nouvelles diasporas, montrer comment elles sont multisituées, exerçant une citoyenneté transnationale avec le développement de personnes qui sont binationaux et qui ont une double culture et qui bénéficient de réseaux internationaux d'ordre économique, financier, matrimoniaux pour développer leur insertion dans plusieurs sociétés à la fois. Cependant, cette notion de catégorie de migration doit peut-être être interrogée, et à la suite d'une journée d'études que nous avons voulu organiser à Paris le 18 mai dernier pour fêter les 50 ans de la revue, on va dire, François Gemmel nous a alertés sur le fait que ces catégories sont fondées soit sur les motivations de départ des migrants, soit sur des catégories administratives qui définissent des politiques publiques, et que nous sommes de plus en plus devant des profils mixtes, hybrides, où les gens migrent en fait pour plusieurs raisons, économiques, politiques, culturelles, et que finalement, cette logique de catégorisation qui rend difficile le classement de certaines migrations, comme par exemple les déplacés environnementaux, qui ne sont pas forcément des migrants internationaux, qui se déplacent au sein de leur pays, mais qui expérimentent une situation de migration. Également, des gens qui sont déplacés pour des raisons d'urbanisation. On sait que de nos jours, ce sont les villes qui reçoivent, notamment dans les continents du Sud, le plus de migrants internes, mais c'est aussi les villes qui envoient le plus de migrants à l'extérieur, à l'étranger. Peut-être que le questionnement des prochains... Les prochains volumes de ce type d'exercice de synthèse sera d'interroger, de questionner, de comprendre toutes les incidences d'une catégorisation des migrations en termes de motivation ou de catégorie d'action publique. De plus en plus, on parle de migrants hommes frontières, c'est-à-dire toutes ces personnes qui malheureusement sont déplacées, qui en fait essaient de trouver les opportunités dans les politiques de contrôle extrêmement fortes des pays du Nord et qui se retrouvent à migrer pendant des mois, voire des années, dans des statuts d'entre-deux, dans des espaces de non-lieu, de citoyenneté, de reconnaissance de droits. La littérature actuellement donne beaucoup d'illustrations porte vraiment cette figure du migrant éternel déplacé. Je suis en train de lire, par exemple, le livre de Jean-Paul Marie, Les bateaux ivres, que nous avons sélectionné pour le prix littéraire de la Porte Dorée cette année. Et ce sont des récits de ces gens qui sont condamnés à migrer pendant des années, sans aucun droit, dans des situations de violence sociale extrême. Je pense que les recherches, de plus en plus, s'intéressent à ces figures de personnes qui vivent dans ces zones de frontières qui ne correspondent même plus à des territoires précis. L'ouvrage a voulu mettre l'accent non pas tellement sur les processus d'intégration, mais sur la façon dont la société répond à l'accueil et à la présence des migrants. Et donc, on s'est rendu compte que le thème incontournable, complémentaire, de travaux sur l'immigration, ce sont bien sûr l'analyse des discriminations qui sont produites dans la société d'accueil, dans la société française, en regard des migrants ou des descendants de migrants. Et l'ouvrage a pu bénéficier à l'époque des résultats de la recherche de cette grande enquête menée par l'INSEE et l'INED à partir de 2008, que vous connaissez certainement, qui s'appelle les trajectoires et origines, qui vient d'être publiée, je crois, il y a un an à l'INED, l'édition de l'INED, et qui soulignait que nous sommes moins confrontés, que les dynamiques d'intégration posent moins de problèmes dans la société française que tous les freins qui sont produits de manière structurelle par la société française sous forme de discrimination très complexe, très généralisée, dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation nationale, la formation professionnelle, le logement, l'accès aux services publics, etc. Ces discriminations permettent de comprendre la précarisation des statuts juridiques et des droits des migrants selon les profils de migration. Des moyens mis en œuvre pour l'accueil des nouveaux arrivants et pour l'intégration des immigrés sont insuffisants, quel que soit le secteur envisagé. Parallèlement à la dérégulation du travail salarié dans la société française, les migrants font face à une logique néolibérale de fragmentation du marché du travail en segments entiers où ils peuvent certes trouver des emplois, mais des emplois fragilisés, temporaires, mal rémunérés, entraînant une déqualification de leurs compétences et de leurs diplômes, et les assignant souvent à l'économie informelle. Ensuite, nous avons voulu analyser des phénomènes qui relèvent plus de logiques culturelles et identitaires. Et donc, plusieurs articles traitent de la question du repli sur soi et des représentations stéréotypées. Les recherches sur l'immigration montrent la prégnance du modèle culturel national dans son rapport à l'altérité que représente l'immigration, perçue dans l'opinion publique comme une menace et comme une entité irrémédiablement inaliénable. Bien sûr, c'est la question du religieux qui nous a alertés avec beaucoup de travaux sur notamment la politisation de l'islam en France, les phénomènes de repli sur soi, de réflexe identitaire qui se prononcent, une opinion française qui considère les étrangers comme placés à la marge de la société française. Ces phénomènes de rejet de l'autre existent aussi de la part des populations immigrées, en réaction, en tension, en crispation. C'est peut-être le fruit de l'instrumentalisation politique de l'immigration qui s'est accentuée depuis une décennie en France et qui reflète ainsi un débat public dans l'impasse, construit sur une seule opposition systématique entre nous et eux. Pour que le rapport de la société française évolue, il faudrait pouvoir changer les représentations négatives et stéréotypées qui dominent sur les migrations. C'est la mission du musée de l'histoire de l'immigration à Paris. C'est une tâche énorme. On comprend bien que les imaginaires nationaux sont forgés par des années et des années, des centaines sont structurellement complexes à faire changer. On a tout un article dans cet ouvrage qui montre les efforts de l'éducation nationale pour introduire dans les programmes d'enseignement l'immigration, non pas comme un volet d'éducation civique, mais dans les disciplines majeures que sont l'économie, la sociologie, etc. Nous avons aussi essayé de montrer les évolutions et les transmissions en fait des cultures des migrants, comment elles se redéfinissent, elle opère une hybridation avec la société française à la deuxième génération. Et on a essayé de voir si le poids de l'héritage colonial, la question du genre, celle de la citoyenneté, sont envisagés comme un facteur pouvant nous permettre de lire autrement les différents modes d'interaction que la société française entraîne avec l'immigration. Pour finir, on a voulu lister un certain nombre d'enjeux importants auxquelles la société française est soumise à travers ces questions migratoires. Il y a bien sûr la question des apports démographiques, à savoir que la France n'est pas dans la situation de l'Allemagne ou d'autres pays européens. Elle n'a pas besoin de l'immigration dans une fonction de remplacement, mais dans une fonction d'ajustement démographique. Il y a un article qui paraît maintenant daté sur les statistiques NIC, puisque quand l'ouvrage est paru, on était à la fin d'un long débat universitaire entre universitaires sur les bienfaits ou non de retenir des critères ethniques dans l'analyse des phénomènes sociaux. Et puis, nous avons un long article sur la place du débat sur l'immigration en France, savoir comment interroger ce débat, son évolution, montrer quels pourraient être des nouveaux projets, des nouveaux arguments pour mettre en avant le vivre ensemble et les apports de l'immigration à la société française sans les minorer ou les déformer.